L'actualité des Alpes du Sud, il a demandé pardon à la famille de Gilbert Félix.
Omar F. comparaît depuis ce lundi dans le box des accusés de la cour d'assises des Hautes-Alpes pour l'assassinat de cet homme de 70 ans. C'était en 2018 à Gap. La question de la préméditation a été discutée hier à l'audience. Dans cet homicide violent, la victime a reçu pas moins de 26 coups de couteau, presque tous dans des zones vitales.
La coalition de gauche se fera-t-elle en vue des législatives ?
Les discussions se poursuivent toujours avec le Parti Socialiste, mais déjà les circonscriptions se distribuent entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise dans les Alpes du Sud. Delphine Bagary et Michel Philippot auraient déjà une investiture.
Comment régler le problème de recrutement des entreprises du BTP et l'insertion des personnes éloignées de l'emploi ?
Par un GEC, un collectif d'entreprises qui a vu le jour dans les Hautes-Alpes. Elles formeront des chômeurs à certains emplois avec la promesse d'un diplôme, mais surtout d'un poste pérenne.
Et puis Barcelonnette qui a la tête dans les étoiles.
La ville lubayenne sera prochainement dotée de son propre observatoire. On en est au stade des marchés publics, mais le projet va bon train pour développer le tourisme astronomique. Et justement, du côté du ciel, risque d'averse aujourd'hui.
Oui, alternance de passages nuageux et de timides éclaircies sur nos deux départements. Et puis les nuages se développent au fil des heures. Les premières averses se déclenchent ce matin et elles vont devenir ensuite plus fréquentes l'après-midi, pouvant parfois aller jusqu'à l'orage. Côté température, ça s'échelonne pour nos deux départements de 13 à 21 degrés. Et donc à la une de l'actualité, il a donc demandé pardon à la famille de Gilbert Félix.
Le procès d'Omar F., cet Irakien de 26 ans qui comparaît devant les assises des Hautes-Alpes depuis lundi pour l'assassinat de ce septuagénaire en août 2018 à Gap se poursuit. Le verdict devrait tomber dans la journée pour cet accusé qui encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Un accusé qui s'est enfin décidé à parler hier et à se livrer sur son histoire et ce qui l'a amené à commettre l'irréparable. Un homicide violent, sanglant, qu'il n'a jamais nié. Christophe Laurenceau.
La langue d'Omar F. se délie enfin, après une enquête psychiatrique qui a mis en avant les mêmes réponses évasives aux questions. Une mauvaise gestion de ses émotions, cet Irakien de 26 ans a parlé d'un père violent dans un pays où la guerre et la pauvreté étaient son quotidien. Un quotidien qui le pousse donc à migrer en France pour travailler et aider financièrement sa famille. C'était ma responsabilité, explique-t-il. Avec une volonté de s'intégrer par l'emploi et l'apprentissage de la langue française, il se l'est même allé au vice qu'il considère normal ici, comme l'alcool, la drogue et les sorties en boîte de nuit. Une occidentalisation qui va se confronter à l'homosexualité et sa perception dans son pays d'origine. Amnésique et persuadé d'avoir été violé par Gilbert Félix lorsqu'il se réveille en caleçon au petit matin chez le septuagénaire un jour avant le passage à l'acte. Il rentrait alors ivre du final à Gap dans la nuit de samedi au dimanche et ne semblait pas accepter par la suite être lié à l'homosexualité. Cette conviction de soumission chimique n'a pas pu cependant être confirmée ou infirmée par les analyses toxicologiques, mais ce qui est certain par contre, c'est son meurtre. Alors que la question de la préméditation est au cœur de la défense autour de la véritable raison de l'achat du couteau qui est devenu l'arme du crime, le témoignage de la médecin légiste a mis en avant un déferlement de violence avec 26 coups de couteau au niveau du visage, du cou et plus généralement dans le haut du corps. Omar F. dit qu'il a vu noir et ne se souvient plus de rien de son acte barbare. Il affirme juste que la phrase « on est en France, on peut faire ça » qui sous-entend un rapport homosexuel consenti a été l'élément déclencheur. L'ambivalence de son comportement oscille alors entre des volontés suicidaires et de se rendre ou encore une tentative de s'enfuir et de se faire rattraper. Lorsqu'il se fait finalement interpeller 3 jours après à la frontière serbe, il se dit même soulagé car je suis coupable et je mérite la prison. Une réalisation qui se retranscrit enfin par des remords envers la victime et sa famille. J'aimerais demander sincèrement pardon. Je ne t'ai pas moi-même, je suis désolé. Pardon, clame-t-il en se dirigeant vers la sœur de la victime qui s'est portée partie civile de ce procès qui se conclura ce mercredi.
Merci Christophe. Et pour ce dernier jour d'audience, place aux plaidoiries de Maître Kader Sebar pour les parties civiles et Maître Grégoire de Petitville pour la défense ainsi que les réquisitions de l'avocat général. Pour rappel, le dernier mot reviendra à l'accusé avant la délibération des jurés.
Et l'actualité qui se poursuit avec la gauche qui s'organise pour les législatives.
Parviendra-t-on à une coalition des gauches ? Après Europe Écologie Les Verts, c'est le Parti communiste français qui a officialisé hier son accord avec la France Insoumise pour les législatives. Reste désormais autour de la table des discussions le Parti socialiste. Des discussions qui ont leur importance dans les Alpes du Sud, puisque ce sont elles qui définiront les candidatures. Mais les deux premières circonscriptions de nos départements semblent déjà pourvues. En effet, selon nos informations, la France Insoumise aurait accepté de se ranger derrière la candidature de Delphine Bagary, députée sortante des Alpes de Haute-Provence, qui a déjà le soutien des écologistes. Côté Hautes-Alpes, son nom était déjà pressenti depuis plusieurs semaines. C'est l'Insoumis Michel Philippot qui serait porteur de cette première union des gauches. Et puis un nouveau nom s'est ajouté aussi hier à gauche de cet échiquier politique sur la première circonscription aux Alpines, celui de Rémi Audoux, le maire de Lettré, ancien conseiller départemental, annonce une candidature sous des valeurs progressistes et humanistes, sans étiquette, mais surtout inscrite dans l'opposition du mandat de la députée LaREM Pascale Boyer. Elle ne doit pas être réélue, écrit-il. Il sera l'invité ce matin du 8h30.
Dans l'actualité, également l'emploi et le BTP toujours en manque de main-d'œuvre.
Le problème de recrutement devient récurrent depuis plusieurs mois dans les entreprises. Et en parallèle, certains demandeurs d'emploi s'enlisent dans le chômage et s'éloignent progressivement du monde professionnel. Nicolas Chabran, le patron de la fédération du BTP dans les Hautes-Alpes, a trouvé le moyen de régler les deux problématiques. Il a eu l'idée de lancer un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Tout est dit, ce sont des entreprises qui s'unissent pour combler les postes vacants tout en formant des personnes éloignées de l'emploi. Nicolas Chabran.
On a fait une enquête auprès de nos adhérents et soit plus de deux tiers de nos adhérents ont le problème de la pénurie de main-d'œuvre et du recrutement. Il faut qu'on agisse. En tout cas, on a beaucoup d'espérance sur ce dispositif. On s'unit pour faire des formations pour des personnes effectivement qui sont en recherche d'emploi, bien entendu, mais surtout qui ne sont pas qualifiées. Donc on leur offre, je dirais, une formation en alternance. Ça peut aller de 6 mois à 2 ans pour les former à un métier dans une entreprise pour qu'au bout de cette formation, ils aient un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Donc, il y a quand même un diplôme et pour rentrer définitivement dans l'emploi. Et aujourd'hui, dans le BTP, c'est 80%, je dirais, de taux de réussite à l'emploi en fin de parcours.
C'est le premier GEC dans les Hautes-Alpes. D'autres devraient voir le jour. Un objectif a été fixé, former entre 20 et 30 personnes par an.
Et on quitte un peu la terre ferme, hein, direction les étoiles du ciel ubaïen, un ciel pur qui méritait bien son observatoire d'astronomie.
Et bonne nouvelle, puisque ce sera chose faite dans les années qui viennent. Le projet, déjà lancé sous l'ancienne mandature, se concrétise. Les marchés publics sont lancés. Sur les 500 000 euros, 70% de subventions sont espérées. Une première pierre avait déjà apporté à l'édifice en 2019, puisque le territoire Alpazur-Mercantour s'était vu décerner le label Réserve internationale de ciel étoilé, le 14e dans le monde, 3e en France. Cet observatoire sera donc la continuité. Situé dans le quartier Craplet, il sera composé d'un bâtiment pédagogique et de 2 instruments d'observation, une lunette Couder et une lunette du Père Jossé. Sophie Vaginet, la maire de Barcelonnette, présidente de la communauté de communes, voilà l'aubaine de développer le tourisme astronomique.
C'est un outil touristique destiné au grand public, mais aussi aux scolaires, puisqu'il y aura une salle pédagogique de vulgarisation, en fait, d'explication du ciel à destination des scolaires et des classes vertes ou des classes astro, du coup. On a à côté le centre Céolane qui pourra héberger aussi les classes et les groupes qui viendraient observer le ciel de Dubaï. Il y a un public aujourd'hui qui aime les étoiles et qui regarde les étoiles. On a aussi un site absolument majestueux qui est le site sur le col de Restefond-la-Bonnette, donc là qui est porté plus par la commune de Josier. Et donc voilà, nous avançons en partenariat avec évidemment la commune pour la soutenir, la commune de Josier également pour soutenir aussi ses projets de diversification en astro et avec le parc évidemment qui est moteur sur ce sujet-là.
À noter que la commune et le parc du Mercantour espèrent que cet observatoire puisse voir le jour à la fin de l'année 2023.
En bref, la route du Granon totalement fermée à la circulation ce vendredi entre 8 et 17 heures.
Une fermeture entre la rue des Trois Fontaines et la chapelle Marie-Madeleine. Des travaux d'enrobés seront menés sur cette portion, c'est ce qu'indique la commune de Saint-Chaffray. Deuxième tranche de travaux aussi sur la rue Spitalier à Barcelonnette depuis ce mardi et jusqu'au 20 mai. La circulation et le stationnement des véhicules y sont interdits. Notez que la circulation est autorisée rue Morin dans le sens est-ouest devant la crèche et également voie du lotissement du parc de la Puebla.
Alpe 1 Sport.
Et c'est un titre mondial qui revient par ricochet dans les Hautes-Alpes. L'équipe de France féminine de hockey sur glace est devenue championne du monde de D1.
Les tricolores l'ont emporté 4 buts à 1 face à la Norvège samedi soir à Angers durant le mondial de cette division, la D1A. Dans la liste retenue par le sélectionneur Grégory Tarlet figurait une briançonnaise, Léa Villot, 25 ans. On pouvait aussi noter d'autres représentantes aux Alpines, Chloé Aurard, Anouk Boucher, Éline Gilodès, Anita Origlio et aussi Lucie Turcotte qui était donc dans la liste des remplaçantes.
Et pas de mondial pour Fabien Colotti.
Le joueur des Rapaces du Gap ne participera finalement pas avec les Bleus à ce championnat du monde en Finlande du 13 au 29 mai. Le haut alpin a été remplacé avec un autre joueur par Charles Bertrand et Anthony Reck, un nom bien connu, attaquant des Gapensais à l'époque. Il avait été l'un des principaux artisans du titre 2017 des Rapaces. Toujours en hockey sur glace, Nicolas Ruel ne portera plus les couleurs des Diables Rouges. Arrivé il y a 4 ans dans l'effectif briançonnais, le joueur avait été auréolé d'un titre de champion de France de D1, une instance qui avait la volonté de le voir évoluer encore sous les couleurs du club, mais l'attaquant en a décidé autrement.
Valentin Giromoine passe coach pour le groupe Coupe d'Europe Vitesse Hommes.
Le haut alpin a été nommé officiellement par la Fédération Française de Ski. Il avait annoncé la fin de sa carrière professionnelle, c'était à l'automne dernier. Approché depuis par les coachs de Hyacinthe Deleplace, un skieur malvoyant de 32 ans, il était finalement devenu son guide. Un nouveau challenge couronné de succès puisque le duo avait fait une excellente saison. 3 médailles d'or au championnat de monde paraski alpin, une médaille de bronze en descente aux Jeux Paralympiques de Pékin. Désormais, après quelques piges en tant que coach la saison dernière, Valentin Giromoine passe donc entraîneur du groupe B Vitesse, une nouvelle aventure pour le sportif de 30 ans.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.